Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
Nuit, le cinéma, avant et après 68. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture, nous serons ensemble jusqu'à 7h du matin. Alors que s'achève la 71e édition du Festival de Cannes, les nuits de France Culture ne pouvaient s'y soustraire. Par solidarité avec des étudiants et des ouvriers en grève il y a 50 ans, nous ne pouvions pas, au risque d'être ridicules, comme l'aurait dit Truffaut, ou cons, comme l'aurait dit Godard, ne pas marquer, nous aussi, le demi-siècle de l'événement qui stoppa le 21e festival, mais nous le ferons bien en parlant travelling et gros plans, ou en tout cas en parlant cinéma. La semaine dernière, avec Chris Marker, nous avons salué ici un cinéaste planétaire. La séquence que nous visionnerons cette nuit, nous avons voulu qu'elle dépasse aussi les frontières de l'Hexagone, en nous souvenant que, dans les mémoires collectives, 68 n'est pas chargé des mêmes émotions et des mêmes images à Paris, à Prague, à Mexico, au Vietnam et Rio de Janeiro. En nous souvenant aussi qu'ici, mai 68 n'avait pas eu pour seul visage celui des étudiants et pour unique décor le quartier latin. Que ses rêves, ses utopies, avaient fleuri tout aussi bien dans la grisaille des paysages industriels, dans des usines et dans des têtes d'ouvriers. Au cours de cette nuit, nous serons en compagnie de Jean Narboni et Bruno Muel, qui, par le cinéma, chacun à leur manière, ont été tous deux témoins et acteurs de cette période. Par leur voix et celle de ceux que nous entendrons dans les archives de notre programme, nous essaierons de savoir quelles histoires, ici et ailleurs, nous racontent de ce temps le cinéma. Un temps que le cinéma a regardé et produit tout à la fois, un temps dont il est aujourd'hui les images, les sons et les paroles. Un temps qui se serait achevé quelques années après mai 68 et aurait commencé quelques années avant lui, quand, aux quatre coins du monde, l'heure semblait être à toutes les formes de lutte, de libération et même, osons encore le mot, de révolution. Bonsoir Bruno Muel.
Bonsoir Alban.
Bruno Muel, chef opérateur et réalisateur, vous avez été une des figures du cinéma militant au sein des groupes Medvedkin, nous y reviendrons. Jean Narboni, bonsoir.
Bonsoir Alban.
Jean Narboni, critique, historien, enseignant, vous avez collaboré au Cahier du cinéma dès 1963 et en avez été rédacteur en chef à partir de 68 justement. Jean Narboni, avec la nouvelle vague, le cinéma a-t-il eu un coup d'avance sur l'événement mai 68 ?
La nouvelle vague est mai 68. Bon, sur le plan strict du cinéma, dans la foulée de la nouvelle vague est très souvent si référent explicitement. On a vu surgir, comme si une traînée de poudre planétaire s'était répandue, un certain nombre de cinémas un peu partout dans le monde. Une sorte d'efflorescence qui a bénéfiquement frappé l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, la Tchécoslovaquie, le Québec, le Portugal. Et il s'est créé, c'est à ce moment-là que je pense les cahiers où j'écrivais bien sûr, ont joué un rôle assez important, c'est-à-dire que nous avons immédiatement repéré, détecté, soutenu et même milité, j'expliquerai en quoi, avec des semaines, des cahiers, des déplacements en province et à l'étranger, pour ces cinémas. Alors, il est peut-être trop tôt pour les énumérer, mais enfin, disons que pour nous, au début des années 60, c'est-à-dire peu après les premiers films de la Nouvelle Vague, on a vu surgir, je sais que Prima della Rivoluzione de Bertolucci a été pour moi un choc. Le premier film de Glauber Rocha, L'As de pique de Milos Forman ou Les Amours d'une blonde, des films qui venaient du Québec, avec des cinéastes comme Jean-Pierre Lefebvre, Michel Brault, Pierre Perrault, etc., etc. En Pologne, Skolimowski, Polanski. Donc tous ces cinémas se sont trouvés à un moment dans une position de révolte, dans des pays très différents et soumis à des régimes extrêmement différents, qui pouvaient être des démocraties ou des pays sous domination communiste ou avec des régimes autoritaires, qui étaient tous en révolte. Je crois que Jacques Rivette avait un jour une formule très juste. Un des films québécois les plus importants que nous avions soutenus, c'est un cinéaste qui s'appelait Gilles Groux. Ce film s'appelait « Le chat dans le sac ». Voilà, et Rivette avait dit « Ce qui unifie tous ces cinéastes qui sont extrêmement différents dans leur forme, dans leur dans l'objet de leur critique, etc. C'est qu'ils sont mal dans... Ils sont comme des chats qu'on aurait enfermés dans un sac et donc ils s'ébrouillent, ils déchirent, ils griffent, ils miaulent. Et ce sentiment de révolte est ce qui est, à mon avis, unifié des cinéastes par ailleurs très différents.
Dans le cinéma français, dans les films français des années 60, quelle place tient la politique? Quelle influence a-t-elle? La guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie surtout, et avant cela l'occupation. Quelle place dans les films mêmes, mais davantage encore chez les cinéastes, dans leur histoire et dans leur formation, Jean Arbony?
C'est très difficile à dire. Je sais que au moment de l'arrêt du Festival de Cannes, sur lequel on reviendra peut-être en 68, Godard avait fait un grand discours à la Godard en disant « Oui, nous sommes en retard. François, moi, Roman, nous ne parlons pas des ouvriers. Le cinéma est entièrement... le cinéma français manque, c'est l'obsession de Godard, le cinéma à la fois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par rapport au nazisme et à l'extermination, a manqué quelque chose, donc une sorte de péché originel du cinéma, que Godard s'efforce, ou s'efforcerait de combler en déplorant cette défaillance. Mais disons que, autour de Godard, qui pour nous a été tout de même un cinéaste très important, quelque chose c'est marqué toujours d'un cinéma politique. Pour nous, Le Petit Soldat, qui est un film qui a été interdit, pour des raisons d'ailleurs contradictoires, si on lit l'avis de la commission de censure, on se demande si c'est à la fois parce qu'il y a des éléments qui soutiendraient le côté algérien ou d'autres qui prôneraient une défense des activistes type OAS ou autre. Bon, est un film très important sur lequel on peut avoir des avis contradictoires quant à sa politique. Sur la guerre d'Algérie, on sait que la censure gaulliste était extrêmement vigilante. On a des tas de films, Varda, etc., où dès qu'il est question, même dans une radio, dans une voiture, dès que le mot Algérie est prononcé, il y a un bip qui interdit. Donc il y avait une censure très grande. Il y a eu évidemment tout un cinéma militant, politique, directement engagé, sur lequel Bruno Muel est beaucoup mieux placé que moi pour parler. Mais disons, pour parler du cinéma qui sortait normalement dans les salles, Le Petit Soldat est un film pour nous très important. Il y a également, sur la guerre d'Algérie, un film comme Le Combat dans l'île d'Alain Cavalier, et un film qu'on oublie trop souvent, qui s'appelle Les Oliviers de la Justice, qui a été tourné en Algérie à la fin de la guerre d'Algérie, par un cinéaste américain qui est mort peu de temps après, assez jeune, qui s'appelait James Blue, et qui est un film extrêmement intéressant, qui a été tourné en Algérie, d'après un roman de Raymond Pellegry, et qu'on oublie assez souvent. Donc voilà pour ce qui concerne la guerre d'Algérie.
Bruno Muel, vous avez été une des grandes figures du cinéma dit militant. Vous aviez 20 ans en 1956, quand vous avez été appelé pour faire votre service militaire en Algérie, où vous êtes resté 2 ans. En quoi cette expérience a-t-elle influencé par la suite votre pratique du cinéma?
Elle est vraiment à l'origine de mon envie de faire du cinéma, de montrer... quelque chose qui rappelle ce que j'avais vécu de façon impuissante, c'est-à-dire appelé plus ou moins planqué, c'est-à-dire que comme j'avais le bac, ce qui à l'époque était considéré comme... Enfin, on n'était pas tellement nombreux à avoir le bac, en fait. Je me suis arrangé pour être secrétaire, mais secrétaire dans le Djebel d'un capitaine d'une compagnie de commandement. C'est-à-dire que j'ai vu l'Algérie sans la voir, et en essayant de la voir quand même. C'est-à-dire que je sortais du camp pendant tout le temps où ça a été possible, et j'allais me balader, ce qui était tout à fait, pas complètement interdit, mais pas recommandé du tout. Et j'ai commencé à voir l'Algérie autour de moi, et ce pays est magnifique en plus. Et qu'il soit soumis à ce que nous lui faisions subir. Ça a été quelque chose qui, pour moi, est resté comme une tâche, quelque chose que j'avais besoin de contrer. J'avais besoin quand même de me laver de cette histoire. Et d'ailleurs, le premier tournage de documentaire auquel j'ai été mêlé, c'est en rejoignant l'équipe de Jean-Pierre Sergent et Marceline Loridan, qui tournait à Alger, un film qui a été terminé. Je suis arrivé pour terminer les images à la fin du tournage, en décembre 62, c'est-à-dire après les fêtes de l'indépendance. Et j'ai revu ce pays, sillonné ce pays, avec... moi, j'étais tellement bouleversé par voir ce qui s'était passé, c'est-à-dire une indépendance, que j'ai eu envie de faire des images et que j'ai fait les images que j'ai pu faire les plus belles possibles pour montrer ce qui se passait. Et je crois beaucoup à la volonté par l'image de dire quelque chose sans avoir à le dire.
Jean Narboni, au Cahier du cinéma, à cette époque, vous avez été l'un des passeurs de tous ces courants nouveaux de cinéma dans le monde. Peut-on tenter avec vous donc un survol d'est en ouest et du nord au sud de ce cinéma qui, dans les années 60, soufflait un vent nouveau dans des contextes politiques et historiques très différents? Par où commencer? Par l'Europe peut-être? À l'ouest et à l'est?
Oui, là je crois qu'il faut rappeler l'importance considérable d'un festival qui s'appelle le Festival de Pesaro, et qui a joué un rôle essentiel de plaque tournante, de lieu de rencontre et de réflexion d'ailleurs, de tous ces courants cinématographiques. Donc c'est une ville qui est sur l'Adriatique, qui est à 1200 km de Paris, je me souviens, en voiture, qui est la patrie de Rossini, quelque chose qui est assez marquant pour la ville. Et sous l'influence de gens comme Adriano Appra, qui est un important critique italien, Lino Michiquet, s'est fondé un festival qui, en 65-66 et les années qui ont suivi, a été pratiquement le lieu de rencontre de tous ces cinémas. C'est-à-dire qu'aussi bien pouvait se retrouver à Pesaro, il avait en plus la réputation d'être un festival intellectuel. J'expliquerai ensuite ce qui s'est passé. Donc là, tout à coup, se rencontrer Bernardo Bertolucci, qui venait de faire Prima della Rivoluzione, Marco Bellocchio, qui venait de faire Les Poings dans les Poches, il y avait Jean-Marie Straub, qui venait de faire, ou qui allait faire Non Réconcilié, et plus tard Chronique d'Anna Magdalena Bach, Glauber Rocha, Gianni Amico, qui était un Italien, mais qui passeur entre l'Italie et le Brésil, et s'est constitué une sorte d'axe très intéressant, qui était l'axe franco-italo brésilien. Je ne sais pas comment ça s'est constitué, mais il y a eu des passeurs comme Gianni Amico, qui est à la fois un critique et un cinéaste, puis ensuite des critiques ou des personnes, des essayistes comme Sylvie Pierre, dont on en parlera peut-être à propos de Glauber Rocha. Et c'était un endroit extraordinairement intéressant où tous ces courants montrer leurs films qui n'étaient pas encore sortis, qui parfois ne devaient même pas sortir, et ça a été quelque chose de très important. C'est là, par exemple, que j'ai vu, et pas découvert, j'ai pas été le seul, mais disons, j'ai découvert un grand cinéaste, quelqu'un qui va devenir un cinéaste immense dont on parlera sans doute, qui s'appelle Robert Kramer. Donc, au Festival de Pesaro 66, je crois qu'il était la deuxième édition, j'ai vu son premier moyen-métrage, qui s'appelait In the Country, donc qui précède son premier long, qui s'appelait The Edge, et tout à coup, la figure de Kramer est devenue quelque chose de très important. Bon, de la même façon, là, j'étais pas en France à ce moment-là, parce que j'étais absent, je crois qu'au Festival de Pesaro 65, et à Cannes, a été découvert un cinéaste qui, pour nous, a été immédiatement majeur, c'était Skolimowski. Quelque chose s'est joué, c'est-à-dire il fallait à la fois défendre ces cinémas qui avaient une revendication nationale, mais dans cet ensemble de cinéastes, il fallait aussi détecter les meilleurs et les bons. Alors, par exemple, dans le cinéma tchécoslovaque, il y a eu un grand nombre de cinéastes, hein, Niemec, Chorm, Passer, etc. Mais la figure de Miloš Forman, pour nous, a immédiatement émergé. De même, en Pologne, C'est Skolimowski, des films comme Rizopis, Walkover, immédiatement pour nous, étaient des choses importantes. De la même façon, au Brésil, où il y avait ce qu'on appelait le cinéma nouveau, donc une constellation de cinéastes très bons, la figure de Glauber Rocha émergeait. En Italie, disons, c'était Bellocchio, Bertolucci, avec la figure tutélaire, évidemment, très importante à la fois pratiquement, affectivement et théoriquement, de Pasolini. Donc voilà, je voudrais rappeler le rôle qu'a joué le Festival de Pesaro, festival intellectuel, parce que les projections, plus les musiciens de jazz très importants, comme Don Cherry, etc., qui venaient jouer dans ce petit festival qui avait lieu une fois à l'an, il y avait des colloques. Il y a eu en particulier un colloque extrêmement important où, sur la linguistique, langage et cinéma, etc., où se sont trouvés Pier Paolo Pasolini, Christian Metz, Roland Barthes, faisant une discussion autour des rapports entre le langage. Et Pasolini, l'année précédente, avait défini la différence entre le cinéma de prose, le cinéma de poésie, etc. Donc c'était un lieu extrêmement important qui a joué un rôle de très très grand pour la promotion de ce cinéma qui, là pour parler en termes plus vastes, a cultivé une sorte d'utopie à un moment qui évidemment n'a pas marché. C'était, est-il possible de concevoir un système de production et de distribution qui se passerait d'Hollywood ? Ou même, comme disait Godard, de l'axe Hollywood-Mosfilm. Il y a eu ce rêve, cette folie, cette utopie qui a pu à un moment fonctionner un peu, qui évidemment n'a pas tenu la route. Mais voilà, c'était ça. Peut-on se passer de l'axe Hollywood-Mosfilm ?
Dans les années 60, de grands documentaristes ont filmé la vie des hommes, ici et ailleurs, et aussi les luttes d'indépendance, les expériences révolutionnaires, Jean Rouch, Lurie Stevens, Chris Marker, Wiseman. Dans l'éternel débat, opposition, fiction, documentaire, pensez-vous que le cinéma du réel a de cette époque mieux rendu compte de la réalité des choses ? Au cours de cette nuit, nous entendrons d'ailleurs Robert Kramer, dont vous parliez à l'instant, dire qu'il refuse, pour son travail au moins, la distinction fiction-documentaire. Bruno Muel.
Oui, la distinction ne me paraît pas capitale. Par contre, ce qui est pour moi important, c'est ce qui s'est passé réellement et ce qu'on a vécu dans cette période. Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a vécu en mai 68 ? Et tout à l'heure, vous évoquiez Godard qui était à la recherche d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers, on n'a pas filmé les ouvriers, etc. Et moi, j'ai connu effectivement des jeunes cinéastes, entre autres un Allemand, je me souviens, qui cherchait partout des ouvriers. Il courait partout, il trouvait pas d'ouvriers. Alors, le problème s'est pas posé pour moi, puisque d'emblée, si vous voulez, à la suite de Chris Marker, et ça, tout ça a démarré avec Chris Marker, qui nous a entraînés avec lui, à Besançon, à la grève de la Rodiaceta. Et il faut savoir que la grève de la Rodiaceta, avec celle de Saint-Nazaire, qui elle a été filmée par Marcel Tria, qui est un ami à moi aussi, sont des grèves qui anticipaient ce qui s'est passé en mai 68. C'est-à-dire qu'en fait, elles reprenaient la manière de faire la grève du Front Populaire. C'est-à-dire grève avec occupation d'usine. Et ça changeait beaucoup les choses. Et grève avec occupation d'usine, ça voulait dire aussi que la lutte culturelle devenait capitale. Parce qu'une usine qu'on occupe, il se passe des choses. Et l'usine de Besançon, de la Rodiaceta, c'était extraordinaire, c'était une maison de la culture. Il y avait des expositions de peinture, il y avait des expositions de photos, il y avait des concerts, Colette Magny était venue chanter. Tout ça créait une ambiance. Et les revendications des ouvriers de cette époque étaient très liées au droit à la culture. C'est-à-dire, pourquoi il y aurait les étudiants fils de bourgeois qui pourraient parler de culture et pourquoi pas nous ? C'était très, très même violent comme demande. Et en fait, nous, on est arrivés, on s'est engouffrés là-dedans. Alors donc, des ouvriers, dès la grève, le début de la grève de la Rodiaceta, pendant même la grève de la Rodiaceta en mars 67, Chris Marker était en train de monter, d'organiser le tournage de Loin du Vietnam, qui était ce grand film collectif.
Oui, nous y reviendrons tout à l'heure.
Nous y reviendrons, d'accord. Mais c'est quand même là que ça a démarré, c'est qu'il était trop occupé et il m'a demandé de descendre pendant la grève pour ramener des images de grandes manifs dans Besançon, où j'étais descendu avec une jeune photographe et un ami aussi. Et donc j'ai connu cette usine occupée et connu les ouvriers que j'ai retrouvés par la suite dans ces conditions. Et il y avait une espèce de connivence et de, pour eux, je pense important, ils me l'ont dit par la suite plusieurs fois, que ça les a soutenus de voir des gens qui venaient de Paris, qui n'étaient pas des ouvriers, on était des techniciens, ça jouait aussi. Technicien, c'est quand même quelque chose de cinéma. Moi, c'était la caméra, je tenais une caméra. C'est quelque chose qui était compréhensible. Et c'est de toute cette proximité entre eux et nous, entre ouvriers, entre les Parisiens, comme ils disaient, et les Byzantins, qu'est née l'idée des groupes Medvedkin, et que ça, on en reparlera donc.
Oui. Jean Narboni, que pensez de ce refus donc de Robert Kramer de faire la distinction entre fiction et documentaire ?
Oh, je crois que c'est quelque chose que tous les cinéastes importants ont dit. Hein. Vous interrogez Rivette, Godard. Truffaut lui avait une sorte d'aversion, mais presque provocante ou provocatrice. Et je déteste le documentaire, donc je ne citerai pas sur ce. Vrai ou faux, il n'aimait que la fiction, mais tous les cinéastes hein, qui comptent ont toujours dit que c'était une distinction très très fragile, que la frontière était extrêmement poreuse, etc. Mais je voudrais revenir sur l'amont de mai 68. Évidemment, nous étions très loin de ces luttes ouvrières avec occupation.
Vous, les cahiers du cinéma, je le rappelle.
Avec revendication culturelle. Arrivée de techniciens ou d'artistes qui venaient soutenir ces luttes, mais cette société gaulliste, parce que souvent, parmi les détracteurs de mai 68, on entend souvent « oui, mais de quoi vous plaignez-vous ? Après tout, il y avait le plein emploi, l'accès au logement était extrêmement facile. »
Oui, les 30 glorieuses.
Voilà. Hein. Voilà, donc on peut entendre ça chez Nicolas Sarkozy ou dans Causeur. Bon, voilà, de quoi vous plaigniez-vous, IEZ ? Bien entendu, c'était
un état démocratique. Aujourd'hui, chez Romain Goupy et chez Cohn-Bendit, c'est étonnant d'ailleurs de voir ces retournements.
Bien entendu, mais il y avait tout de même, on respirait mal, il y avait une lourdeur, un conservatisme, un moralisme, quelque chose d'absolument étouffant. Donc, bien entendu, je ne sais pas, le fascisme, ça n'était pas de la répression, mais quelque chose qui prenait à la gorge. Et dans notre domaine, qui était absolument pas celui des luttes ouvrières, nous avons connu aussi le caractère conservateur et répressif de ces années gaullistes. Je parle de Gaulle post-58, je ne parle pas, évidemment pas du de Gaulle de la Deuxième Guerre mondiale. L'interdiction de la religieuse a été pour nous un moment de lutte important. C'est-à-dire Jacques Rivette adapte à partir de Diderot la religieuse, des associations de parents d'élèves d'écoles privées, des religieuses, on disait les bonnes sœurs, etc., commencent à dire que c'est un film qui ridiculisait les couvents, qui était anti-chrétien, blasphématoire. Bon, ça commence à gronder. La commission de censure le voit, l'interdit au moins de 18 ans. Yvon Bourges, ministre de l'Information, interdit le film. André Malraux, qui se fait insulter par Godard à ce moment-là dans une lettre fameuse qu'il appelle ministre de la Culture avec un K, laisse passer le film pour une projection à Cannes, donc il est une position du gouvernement qui est en porte-à-faux, et il a fallu, bien plus tard, que Georges Gorce lève l'interdiction sur la religieuse. Bon, pour les cahiers du cinéma, ça a été un combat. J'ai d'ailleurs un souvenir très précis que des amis de l'époque, Comolli, Bontemps, ont également. On avait fait un éditorial dans les cahiers du cinéma, c'est Godard qui l'avait écrit. Il était d'une violence inouïe, et le numéro était pratiquement sous presse. Nous étions édités à l'époque par Daniel Filipacchi, par le groupe Filipacchi. C'était un très bon éditeur qui nous laissait une paix royale. Mais l'éditorial était d'une telle violence que ça a un peu fait peur. Donc, il y a deux numéros, hein, donc il pourrait peut-être se vendre aux enchères très chères, mais il y a un numéro avec l'éditorial de Godard qui n'a pas été distribué, un autre numéro avec un éditorial de nous, qui est assez violent, mais beaucoup plus doux. Ça a été pour nous un combat. Donc, première étape, ça c'est 66. Puis, l'affaire Langlois. L'affaire Langlois, c'est, pour nous, c'était, toutes choses égales, c'était aussi une lutte importante. Quand tout à coup on décrète que l'anglois
est indésirable.
est indésirable. Et que, bon, je ne rappellerai pas l'histoire de la Cinémathèque.
Qui est rappelée dans l'archive que nous entendrons tout à l'heure.
Sur lequel tout le monde sait beaucoup de choses, mais enfin, il y a eu une lutte extrêmement importante, alors là, à l'échelle planétaire, puisque les cinéastes du monde entier ont envoyé des lettres et télégrammes en disant qu'ils refusaient que leur film passe à la Cinémathèque si l'anglois n'était pas réintégré. Et là, les cahiers du cinéma ont joué un rôle capital. Je parle pas des individus. Les individualités comme Rivette, Godard, Truffaut, qui sont évidemment allés en première ligne, mais le bureau des cahiers, matériellement, était un endroit où venaient des gens qui venaient de revues d'ailleurs, autres que les cahiers, et parfois concurrents, voire même opposés comme positifs, c'était là que se passaient les choses. Quoi. Je me souviens d'une fameuse conférence de presse, qu'on peut-être on entendra, au studio Action, où il y avait à peu près tout le monde. Pour nous, ça a été un combat très important. Et ça précède, ça a duré 3 mois, c'est février, mars, avril 68. Alors là, pour mémoire, et pour revenir à vous, tout le monde sait qu'un petit rouquin, à un moment, assis sur une fenêtre, a dit « ne vous dispersez pas » et que c'était comme un dit. Bon, mais ça, c'est anecdotique presque. Mais voilà, donc, pour nous, sur notre plan que celui des luttes ouvrières, c'était une façon de subir quelque chose qui était un moralisme, une répression, un conservatisme bureaucratique qui nous déplaisait, enfin, qui faisait qu'on respirait mal sans être dans un état, dans une démocratie, ou dans un état où les CRS étaient des SS, évidemment, c'est bien évident.
Vous parliez du monde entier, Jean Arbony, et vous évoquiez la figure de Glauber Rocha tout à l'heure, qui sera présent dans cette nuit par la voix de Sylvie Pierre. Qu'est-ce qui passe alors par ce cinéma nouveau, et en particulier celui de Glauber Rocha?
Glauber Rocha était une figure qui a immédiatement compté pour nous, et qui a d'ailleurs compté également pour les cinéastes de la Nouvelle Vague, hein, puisque, si je me souviens bien, un des films de Godard de la période hors commerce, qui s'appelle Vendès, je me demande si c'est pas... Je crois que c'est là qu'on voit apparaître Glauber Rocha, qui est à la croisée des chemins, et qui cherche... quasiment, qu'est-ce que pourrait être un cinéma tricontinental. Donc pour nous, à la fois sur le plan de la violence, de la révolte, du lyrisme, de la folie, au sens fort du terme, de son cinéma, c'est quelque chose qui a tout de suite compté. Donc Baravento, Le Dieu Noir et le Diable Blanc, Terre en transe, etc., a toujours beaucoup compté pour nous. Et ensuite, bon, Sylvie Pierre, qui écrivait au cahier, a elle-même vécu plusieurs années au Brésil, je crois qu'elle l'explique, et a bien connu tous les gens de ce cinéma, c'est-à-dire Paulo César Saraceni, Carlos Diegues, Léon Hirschman, Nelson Pereira dos Santos, etc. Et évidemment, Glauber Rocha, qui était une sorte d'emblème.
Bruno Muel, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui.
Sur Glauber Rocha.
Non, pas directement, sauf que moi j'ai découvert ces films comme spectateur et que ça a été une révélation.
Hein. À l'époque.
Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un intérêt particulier pour l'Amérique latine dont on suivait les luttes. Alors évidemment, il y avait l'histoire de Cuba qu'on suivait de près. Mais quand même, et moi personnellement, j'ai eu l'expérience d'aller filmer, par exemple, les guérillas des FARC en Colombie en 1965. C'est très proche de 68. Hein. Et mon ami, que j'admirais beaucoup, Mario Marais, filmait régulièrement. Il allait en Guinée-Bissau et il rencontrait Amilcar Cabral et les luttes d'indépendance des colonies portugaises. Donc tout ça était un univers qui nous concernait et on en avait une vision un peu utopique.
Est-ce qu'on doit voir en Glauber Rocha le cinéaste non aligné par excellence, Jean Arbony?
Oui, je vois pas exactement. Pour nous, ils étaient tous non alignés. Donc lui était une figure flamboyante, hein, d'excellent cinéaste, mais qui était beaucoup plus réservé que lui, hein, dans les gens comme Bellocchio ou Matthias Krobzic, pour parler d'un cinéaste yougoslave, c'est un excellent cinéaste, mais il n'avait pas le côté flamboyant, à la fois personnel et follement lyrique, du cinéma de Glauber. Donc, je sais que bon, l'aspect flamboyant de la personne et du cinéma l'a immédiatement porté au devant, mais Évidemment, le côté Amérique latine qui comptait beaucoup lui conférait un rôle particulier, donc le film de Godard Vandès reconnaît puisqu'il le met à la croisée des chemins. Mais voilà, sans plus, hein, c'était un... pour nous, ils étaient tous non alignés.
Quels autres cinéastes produit l'Amérique du Sud dans ces années 60?
Tous ceux du cinéma novo.
J'ai travaillé avec Ruy Guerra. Qui...
Oui, voilà, Ruy Guerra. Je me souviens de Ruy Guerra.
Qui n'était d'ailleurs pas...
Qui n'était pas brésilien, qui était mozambique.
Oui, il était mozambique.
Voilà, Ruy Guerra était mozambique. Oui, je me souviens parfaitement. Voilà, qui avait fait un film tout à fait impressionnant.
Os Fusis.
Qui s'appelait Os Fusis.
Oui, c'est bien.
Et je me souviens même que je l'ai connu. J'ai même fait, je crois, un entretien pour les cahiers. J'ai même écrit peut-être une petite article sur Os Fusis. Qui a été un moment très un film très important pour nous.
Oui.
Ruy Guerra, voilà, qui était assimilé à ce, mais qui lui était mozambicain.
Il y a eu Solanas aussi en Argentine.
Oui, ensuite il y a eu, donc c'était un peu plus tard, sous l'influence, je dois reconnaître, d'un critique disparu maintenant, que dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelait Louis Marcorel,
oui,
qui écrivait au Monde entre autres et aussi au Cahier bien avant moi, qui nous avait fait découvrir La Hora de los Hornos, donc en français c'est L'Heure des Brasiers.
Oui.
Voilà, donc nous avons découvert beaucoup ce film qui a beaucoup compté à un moment que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais j'aimerais bien le revoir maintenant pour savoir si la notion de péroniste de gauche a un sens ou si c'était une aberration politique.
Au milieu des années 60, l'engagement militaire toujours plus important des États-Unis au Vietnam rapproche, fédère les oppositions et les protestations, des plus modérées aux plus radicales, dans le monde entier, jusqu'au cœur même des États-Unis. La guerre des USA au Vietnam a-t-elle alors changé le rapport du public et des cinéastes avec le cinéma américain, en France et ailleurs? Glauber Rocha, à l'époque, parlait de John Ford comme d'un fasciste.
Oui, il a d'ailleurs changé d'avis, oui, là, je crois que Sylvie le dira
oui,
dans un extrait, peut-être sur son lit de mort ou à la fin de sa vie. Oui, 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 mais Glauber Rocha, c'était tout de même un personnage étrange. Oui, oui, donc sur John Ford, oui, pour lui, ça représentait bon le militarisme américain, le fascisme, l'horreur. Oui, bien évidemment, mais pas seulement John Ford. Hein. Mais sur l'Amérique, bien entendu...
C'était Hollywood, hein, c'était Hollywood.
Bien entendu, c'était Hollywood. Mais le film Loin du Vietnam, dont Bruno Muel parlera mieux que moi, a quand même cristallisé cette position à l'égard de... Alors, je dois rappeler également que James Blue, qui avait donc réalisé Les Oliviers de la Justice, à la fin de la guerre d'Algérie, à Alger, a joué un rôle important, je crois, dans le filmage des marches d'étudiants, etc., contre la fameuse marche contre la guerre du Vietnam. Je crois même qu'il était un des, sauf à me tromper, un de ceux qui ont filmé cette marche.
Bruno Muel, oui. C'est donc par le film Loin du Vietnam que Chris Marker a été mis en contact avec les ouvriers de la Rodia Seta, et que de cette rencontre vont naître les groupes Medvedkin à Besançon et un peu plus tard à Sochaux. Donc quand et comment sont nés les groupes Medvedkin et quel était le projet des groupes?
En fait, Chris Marker était occupé donc avec Loin du Vietnam, et le Vietnam était effectivement... D'ailleurs, la séquence dans Loin du Vietnam, tournée par William Klein, est vraiment remarquable, de la violence des scènes de soutien à la guerre et de lutte contre la guerre. C'était une situation très tendue et très violente, en tout cas à Washington, et il a filmé à New York aussi.
Oui, devant Wall Street.
Oui, oui, oui. Il y a une coïncidence, si vous voulez. C'est-à-dire que cette lutte anti-guerre coloniale, enfin néocolonialiste, enfin poursuite du colonialisme, et les luttes ouvrières se sont rejointes. C'est l'époque qui veut ça. Hein. Mais ça s'est passé que ceux qui voulaient montrer les révoltes contre la guerre du Vietnam, se sont retrouvés à parler des luttes ouvrières. Et c'est là que je suis descendu à Besançon, et qu'ensuite, Chris Marker à tourner ce film avec Mario Marais, ce vieil ami dont je parlais tout à l'heure.
Vous pouvez peut-être rappeler en quelques mots qui était Mario Marais.
Mario Marais, c'était un grand résistant qui s'est évadé du Fort Montluc à Lyon, ce qu'il faut le faire, qui avait été parachuté depuis l'Angleterre comme radio. Donc c'était les plus gros risques qu'on pouvait prendre à l'époque, parce que des radios parachutées en France, il y en a un sur dix qui a survécu, je crois. Et qui a commencé le cinéma d'une façon très bizarre, c'est qu'après ça, il est parti, comme radio toujours, dans les expéditions Paul-Émile Victor. Et il est parti en Antarctique faire une saison, c'est-à-dire un hivernage complet. Et le cinéaste de l'expédition est mort. Et Mario a dit, mais c'est complètement idiot, on a une caméra, ça doit pas être si difficile que ça de filmer. Et donc il a démonté la caméra, il l'a remontée parce qu'il était, il avait en fait un CAP de serrurier. Et donc pour lui c'était un jeu d'enfant. Il a appris à servir de cette caméra et il a fait un film sur les pingouins. Enfin, c'est pas les pingouins, c'est les manchots en fait. Et ce film, quand il est revenu, ça a fait un court-métrage qui est passé au Festival de Cannes et qui a obtenu un prix. Il y avait un prix du court-métrage à l'époque. Et du coup, il est devenu cinéaste, de façon, disons...
Accidentelle, presque.
On peut dire accidentelle. Mmh. Et il était exactement celui qu'il faut pour démarrer les groupes Medvedkin. Parce que justement, l'idée, c'était qu'on peut... par simplement l'envie de faire et une certaine habileté, on peut devenir cinéaste, on peut filmer. Filmer, ça ne veut pas forcément dire être cinéaste, mais c'est là que justement tout se joue. Les groupes Medvedkin, c'était que les ouvriers puissent jouer un rôle dans la façon dont on les montre. Pas forcément devenir des cinéastes, mais y participer. Et c'est là que nous avons travaillé ensemble. Et ce qui s'est passé de formidable, c'est que nous, on était là pour qu'ils nous apprennent des choses, et eux, ils attendaient de nous qu'on leur apprenne des choses. Il y avait un échange de c'est le don et le contre-don, si vous voulez. C'est ce qui a donné la richesse à cette expérience.
Quel a été le rôle de Chris Marker dans les groupes Medvedkin? Comment intervenait-il?
Ben, il n'intervenait pas tellement que ça, sauf qu'il a fait le premier film, il a réalisé le premier film qui a été à l'origine de tout ça, c'est-à-dire À bientôt j'espère, qu'il a fait donc avec Mario Marais. Et après, quand ils l'ont projeté aux ouvriers de la Rodiaceta, il y a eu des critiques, mais ça montre pas les choses comme elles se passent réellement, ça ne montre pas assez la lutte quotidienne, etc. Avec des revendications donc de politiques, disons-le. Et il a dit, mais très bien, mais si vous voulez des films qui correspondent vraiment à votre vie, il faut les faire vous-même. Ce qui était à la fois une boutade et une réalité. Tout ça, en fait, c'est la construction de ce qui s'est passé, qui est à la fois une réalisation et un mythe. Parce que c'est vrai que, pourquoi ça n'a pas continué? Parce qu'il y a quelque chose d'impossible. On ne devient pas cinéaste comme ça, mais on peut faire des films quand même. Et ces films, ce sont des objets bizarres, qui sont un peu sans réalisateur. Et là, Chris Marker s'est éloigné d'ailleurs. Il avait un regard de conseil, d'abord. Il nous donnait des pistes, et il était présent. C'était une référence pour nous. Et d'ailleurs, de Chris Marker, qu'on présente toujours comme un homme secret, impénétrable, je voudrais signaler quelque chose, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est-à-dire qu'il a aidé un nombre de films, surtout de documentaires, mais pas seulement, à se faire incroyable. Et donc Chris était celui qui pouvait arriver à un certain moment, donner une petite clé dans le montage ou même reprendre un montage, ça lui est arrivé aussi. Et c'est cette générosité qui allait bien avec le travail de documentaire, qui est quand même quelque chose où il y a un don de soi qui existe aussi bien sûr dans la fiction, mais qui est peut-être d'une autre nature quand même. Hein, c'est que On est comptable de ces gens qui qu'on filme, de leur vie de tous les jours, de cette intrusion d'une caméra dans la vie, dans le cours de la vie. Et il faut en faire quelque chose. On est obligé de s'en sortir. Et voilà, on a fait ces films un peu bizarres, je crois, qui correspondent à pas grand-chose d'autre. Je crois que c'est une expérience qui n'a pas eu tellement d'équivalent. Et ils ont le mérite d'exister. Il y en a qui sont très beaux, d'ailleurs, mais enfin, moi, je trouve. Mais il faut les voir.
Chris Marker n'a pas toujours été un cinéaste suivi par les cahiers du cinéma, Jean Arboni. Pour quelles raisons? Est-ce qu'on ne peut pas dire que les cahiers sont passés à côté de Marker?
C'est assez compliqué. Bon, les cahiers ont toujours une position en porte-à-faux à l'égard de Marker. J'ai essayé de retracer le plus honnêtement possible chronologie. Je crois que du temps d'André Bazin, d'Ognol Valcro, etc., et aucun problème, les films de Marker ont été défendus, Lyon Chapéquin, de Sibérie, etc. Mmh. Ça ne posait aucun problème. Pas mal avant, un ou deux ans avant que j'entre au cahier, il y a eu tout à coup une sorte de division binaire qui était pro-rouge contre Marker. Voilà. Et je me souviens, il y a eu un article, il y a un critique des cahiers qui est mort il y a un an ou deux, très important, personnage très étrange également, mais passionnant, qui s'appelait Michel Delahaye, qui avait écrit un article qui avait presque une sorte de valeur d'éditorial général pour les cahiers, qui s'appelait Le Monde des I. Je me souviens, et c'était un film où il opposait le joli mets de Chris Marker et le cinéma de Marker au cinéma de Rouch. Alors, je disais, oui, Rouch, souvent on dit que c'est paternaliste, etc. Des groupuscules extrémistes africains disent que son point de vue, c'est le très grand cinéaste, sa position est juste. Et dans Le Monde des I, donc I, c'était intellectuel. Il y avait un côté presque très étrange pour une revue comme les cahiers, quelque chose d'anti-intellectuel dans cet article de Michel Delahaye. Il reprochait, dans Jolimet, et donc dans tout le cinéma de Marker, vu ses références à Giraudoux, etc., c'est-à-dire d'être un styliste brillant, et finalement, de dire qu'il faisait des films à propos de gens ou sur des gens, de ne pas leur donner la parole et de parler à leur place. Voilà. Alors, quand on arrive au cahier, bon, il y a quand même un peu une contamination de groupe, d'intimidation, donc... Voilà. Alors, chacun d'entre nous pouvait aimer l'ambassade, adorer. Mais disons qu'il y a eu un moment qui s'est ensuite un peu éclairci, mais où il y a eu réellement cette chose des divisions idiotes. Bon, à un moment, les cahiers, c'était Mizoguchi, positif, c'était Kurosawa. Voilà pourquoi, alors que les deux sont de très grands cinéastes. Pendant quelques années, il y a eu cette position, là, je dois reconnaître, et c'est complètement le moment où j'y étais, mais... les hostilités avaient été déclarées bien avant, autour de cette idée. Je me souviens, il donnait un exemple, j'ai parvu Jolimet depuis des années, où Chris Marker interviewait quelqu'un dans Paris, peu après l'indépendant, dans Jolimet, et que la personne disait quelque chose d'étroitement petit bourgeois ou pas très intéressant, et que, je sais plus, un mouvement de caméra ou un insert de Marker aurait été méprisant ou sur le dos de celui qui disait cela. Et donc, il vivait chez Marker, sans doute de façon injuste, une sorte de position en surplomb sur des gens, alors ouvriers ou petits bourgeois ou employés qui filmaient dans Jolimet, peut-être dans d'autres films. Quelque chose qui était une position de surplomb assez... pas méprisante, mais enfin un petit peu condescendante. Voilà, je dis le plus honnêtement possible.
Pour en revenir à Loin du Vietnam, donc un film collectif qu'on peut dire peut-être supervisé par Chris Marker, qui n'a quasiment pas
entraîné par Chris Marker.
Entraîné par Chris Marker, qui n'a quasiment pas été vu, qui circulait ici et là dans les réseaux militants ou autres et qui n'a pas eu de distribution. Ce film reste aujourd'hui un document irremplaçable. Il en existe maintenant d'ailleurs une très belle copie DVD. Pourquoi le chapitre réalisé par Jean-Luc Godard a-t-il été si mal reçu à l'époque? Les questions qu'abordait Godard n'étaient pas si éloignées de celles qu'abordait René dans une mise en scène, elle, très différente, Jean Arboni.
Ben oui, parce que bon, à partir du moment où Godard, au lieu de filmer au Vietnam ou de prendre beaucoup d'archives concernant le Vietnam ou d'autres luttes anti-impérialistes, ce film en gros plan devant une caméra, donc immédiatement, c'est Godard ne veut pas faire comme tout le monde, c'est narcissique, c'est auto-centré, donc c'est un réactionnaire, et d'ailleurs le petit soldat l'a montré bien, etc., etc. Voilà, je crois que le gros de la chose, c'était ça. Alors qu'en fin de compte, quoi qu'on puisse penser parfois des polémiques que Godard peut susciter délibérément ou de façon provocante, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il a ensuite expérimenté. Alors lui, réellement, à propos de la Palestine et d'Israël, quand il voulait faire un film qui s'appelait « Jusqu'à la victoire » et qu'à l'enfirme filmé sur place, il s'aperçoit que c'est pas si facile d'aller ailleurs pour faire un film, que ce film, il ne me le montre pas, et que finalement il revient dessus en critiquant ses propres images et en intitulant le film non plus Jusqu'à la victoire, mais ici et ailleurs, c'est exactement la question qu'il pose dans Loin du Vietnam. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est ici que de parler de l'ailleurs? Est-ce qu'on doit, nous, aller au Vietnam, ou est-ce qu'on doit faire pénétrer, comme il le dit à la fin de sa partie, le Vietnam en nous pour le convertir en autre chose, soit ici, soit ailleurs? Voilà, je pense que ce qui a masqué cette question très importante, qui est tout de même la question précisément, qui peut être celle du paternalisme, on va, on surplombe les gens, on revient, on est content, on a une bonne conscience. Voilà, Godard a posé ces questions, mais comme il est devant sa caméra et qu'il est en train de manipuler la caméra, immédiatement, voilà, il fait bande à part, il s'en fiche, il est narcissique, il est centré.
Oui, là, je vous suis tout à fait, parce que en fait, moi qui étais plutôt du côté politique, plutôt engagé, plutôt vous voyez ce que je veux dire, c'est la séquence que j'ai préférée, c'est celle de Godard, parce que justement je lui trouvais une honnêteté assez troublante.
Absolument.
De ce côté-ci du monde, mieux qu'aucun cinéaste sans doute, Jean-Luc Godard a saisi avant 68 ce qui travaillait la société et les individus. On l'a souvent dit visionnaire. Son cinéma n'était-il pas tout simplement, mais aussi assez génialement, contemporain, Jean Narboni?
Oui, tout à fait, tout à fait. Le cinéma de Godard a toujours été un cinéma politique, y compris À bout de souffle, et ce qui a pu être dit également sur À bout de souffle, puisque il y a des points de vue très contradictoires. Le petit soldat, n'en parlons pas. Et un film comme La Chinoise s'est fait attaquer de tous les côtés. Hein. Bon, d'ailleurs, le film d'Anna Vissus, à sa façon, le rappelle. Bon, on aime pas ce film, hein. En tout cas il rappelle ce moment, c'est-à-dire bon, on fait un film en pensant qu'il va plaire aux Chinois et aux pro-Chinois, et ce sont précisément ceux qui trouvent que la vision qu'il en donne est absolument désastreuse, comme des petits bourgeois égarés ressassant quelques slogans, etc.
Moi j'avais adoré ce film, La Chinoise.
Vous étiez encore assez minoriste.
Encore un peu à contre-courant, là, oui.
Oui, mais tout le, par exemple, la longue discussion, je crois que c'est dans La Chinoise, je ne pense pas me tromper, mais la longue discussion entre Anne Wiazemski et Francis Janson dans le train, là, c'était absolument passionnant, sur précisément, là encore, pas d'ici et ailleurs, mais ici et ailleurs en France, c'est-à-dire entre un point de vue rationnel, politique, et puis Anne Wiazemski entièrement prise dans le moment maoïste. Ce moment est tout à fait passionnant. Et
plus tard dans cette nuit, nous entendrons Godard d'ailleurs. C'était à l'époque de Tout va bien, c'est-à-dire à la fin de l'expérience du groupe Digavertov en 72. Quel regard portiez-vous alors sur le groupe Digavertov, Jean Narboni?
Pour nous, ça a beaucoup compté. Bon, il est bien évident qu'à un moment, bon, après 68, il y a une sorte de peau de chagrin, hein, dans les goûts des cahiers. Ça s'est de plus en plus rétréci. On parlait de moins en moins de films qui sortaient. Et à un moment limite, hein, des cahiers dans l'engagement pro-chinois, etc. On parlait plus que de deux cinéastes. C'est-à-dire Godard et Straub. Et puis, quelques films des frères Taviani, toujours Robert Kramer, mais enfin, il y avait une sorte de rétraction très grande. Et nous avons suivi constamment les films du groupe Digavertov. Disons que certains nous paraissaient un peu durs à avaler. J'avoue que j'ai jamais été très... J'ai jamais beaucoup aimé un film comme Pravda, mais disons, Vendeste ou Lutte en Italie, même British Sounds, etc., quelque chose se chercher, voilà. Je ne pourrais pas répondre à la question de pourquoi est-il toujours au bon endroit, mais quel que soit l'endroit où il se trouve, il en est insatisfait, et donc il cherche, et il arrive assez souvent qu'il trouve. Oui. Il y a du déchet, mais même dans les films d'Iga Bertov, un film comme Vent d'Est, par exemple, ou un film comme Lutte en Italie, et puis ensuite d'autres comme Comment ça va, reste pour nous important. Enfin, on a constamment suivi son cinéma.
Bruno Muel et Jean Narboni, merci. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit. Le cinéma avant et après 68. Dans un instant, La cause du cinéma, le troisième temps de la grande traversée François Truffaut, proposé par Serge Toubiana en 2008. Glauber Rocha par Sylvie Pierre, un numéro de microfilm de Serge Danet en 1987. Et Robert Kramer pour son film Point de départ au micro de Michel Simon, dans Projection privée en 1994. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30 pour la suite du programme de la nuit, le cinéma avant et après 68. À tout à l'heure.